Bonjour à tous, vous êtes lycéen, éventuellement collégien, vous écoutez le bon plan de la semaine avec l'actuality team. Le principe de cette petite émission est simple, nous avons récolté les 24 réponses de notre questionnaire sur la vie étudiante des étudiants de toute filière professionnelle pour vous renseigner sur les prochaines années qui vous attendent lors de vos études. Et aujourd'hui, deux étudiants en école d'économie à Lille sont avec nous pour répondre à nos questions. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour Evalou.
Bonjour.
Vous êtes étudiant à l'EFGES.
Alors c'est ça, c'est FGES,
FGES.
C'est la faculté de gestion d'économie de sciences.
FGES, ok. Et donc on accueille aussi Thomas avec nous.
Salut.
Et Sarah.
Coucou.
Pour réaliser l'interview. A tout de suite. Vous êtes sur PFM et tout de suite l'interview sur la vie étudiante de deux jeunes en fac d'économie. Je propose de commencer l'interview. Thomas, tu t'énonces la première question ?
Alors, assez basique comme question, quel bac avez-vous ?
Donc on a fait un bac ES, pour moi SP maths, et pour Guillaume SP éco approfondi.
C'est de l'économie approfondie, oui, tout à fait. Donc du coup, en fait, c'est un bac ES qui permet de justement tout ce qui est économie sociale pour pouvoir entrer dans la faculté d'économie. Donc c'est un peu ce qu'on recherche principalement dans la fac. Après, il y a différents types de bacs, on recherche aussi différents types de bacs, notamment les bacs L avec SP maths par contre. Et ensuite, les bacs ES aussi, parce qu'ils ont plus de facilité dans tout ce qui est mathématiques, statistiques, tout ça. Donc, tous les bacs sont recherchés dans la faculté.
Ok. Sarah, deuxième question.
Pour quelles études avez-vous choisi ce bac ?
Donc, pour rentrer à la FGES, donc la faculté de gestion d'économie et de sciences, pour rentrer en licence. Et la fac propose aussi un double cursus licence plus une prépa pour rentrer en école de commerce. Donc, en fait, c'est des cours de licence le matin et des cours de préparation aux écoles de commerce l'après-midi. Donc, ça permet de faire une préparation intégrée et de ne pas passer par une prépa littéraire ou scientifique où on bosse pendant 2 ans. Voilà.
J'ai une question. Pourquoi tu as pris SPMAT ?
SP maths parce que j'aimais les maths et que j'étais bonne en maths, donc la spécialité maths en ES est plutôt facile, donc je me suis pas trop posé la question.
Ok, et pourquoi cette filière donc d'aller à l'EFGES ?
L'EFGES.
ES, j'ai du mal avec.
C'est une filière plutôt générale, en fait, elle est assez diversifiée, elle touche à tous les métiers de l'entreprise. Et donc, c'est plus pour faire du commerce, mais on touche aussi au marketing, à la communication, à la logistique, aux ressources humaines. C'est assez diversifié.
Puis en fait, c'est surtout une faculté qui te permet, enfin, qui est à la fois théorique et concrète, dans le sens où en fait, c'est une faculté qui va vraiment t'aider à prendre du recul sur l'ensemble de l'actualité ou même sur les métiers de l'entreprise. Et aussi, elle va développer ta capacité d'analyser. Donc, d'analyser les faits économiques ou alors les faits d'actualité en général. Et tout ce qui va avec.
Du coup, dans quelle école êtes-vous ? L'FGES ?
Toujours à la FGES.
Ouais. FGES. Et c'est à Lille, ça ?
Oui, c'est à l'Université catholique de Lille. Donc en fait, nous, on est en gestion, mais il y a plusieurs licences, je dirais. Donc il y a la licence gestion, la licence économie-finance, la licence international economics, la licence de la science de la vie. Enfin, ça propose plusieurs filières en fait.
C'est ça, ouais. En fait, chaque licence est spécialisée vraiment dans un domaine particulier. Par exemple, la licence gestion dans laquelle on est, c'est vraiment spécialisé pour les métiers de l'entreprise en fait. Alors que si vous partez par exemple sur une licence d'intérêt économie, c'est vraiment une licence qui va plus se porter sur tout ce qui est international, tout ce qui est par exemple marketing international ou alors les métiers comme par exemple l'import-export dans ces domaines-là. Ensuite, on a l'éco-finance. L'éco-finance, c'est vraiment la licence qui sera... C'est de l'économie vraiment pure et dure au sens finance, c'est-à-dire qu'on va plus étudier tout ce qui est la bourse, le trading en général. Et puis ensuite, la faculté a un partenariat avec ISEA, donc propose une licence en fait pour tout ce qui est comptabilité de l'audit en fait, comptabilité financière, etc.
Pourquoi avoir choisi cette école ?
Alors pourquoi j'ai choisi cette école ? Tout simplement parce que en fait c'est une licence. Pourquoi la licence gestion ? Parce qu'en fait c'est vraiment une licence qui est, comme l'a dit tout à l'heure Eva, très diversifiée, qui est assez généraliste dans tout ce qui est de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'économie en général, en France ou même à l'étranger. Donc ça permet en fait, c'est une licence qui permet de vraiment construire ton projet professionnel par la suite, que ce soit en économie ou dans d'autres domaines par exemple.
Juste une petite question, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une licence exactement ?
Une licence, ça se déroule en 3 années à la fac. Donc, à la suite des 3 années, on a un diplôme qui s'appelle le diplôme de la licence. Ça permet d'acquérir des connaissances assez théoriques sur sur le domaine.
En fait, la licence, en fait, c'est vraiment, comme elle a dit tout à l'heure, c'est vraiment sur 3 ans, mais en fait, c'est un intermédiaire pour, en fait, pour tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont en post-bac, qui veulent entrer directement dans une école de commerce, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'y rentrer, ou alors tous ceux qui veulent éviter quand même de faire un BTS ou autre. En fait, la licence, c'est vraiment un intermédiaire qui vous forme assez bien, justement, pour pouvoir partir éventuellement dans un master d'école de commerce ou éventuellement dans un master, comme on le propose, au master du Rhizome sur différents domaines comme la banque ou alors, je ne sais plus exactement, il y avait la banque, il y avait aussi tout ce qui est international économie. Enfin, voilà. C'est surtout à ça, la licence.
Pour faire tout ça, c'est quelle matière où il faut être fort?
Alors en général, il vaut mieux être fort dans tout ce qui est mathématiques, statistiques. C'est pour ça qu'on recherche essentiellement des profils de ES, parce qu'en général, ils ont déjà en première et en terminale acquis des connaissances en économie sur des théories basiques comme Adam Smith ou autres. Et ensuite, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, il y a n'importe quel type de bac peuvent rentrer, sauf pour les L, qu'il faut vraiment qu'ils aient une spécialisation maths approfondie, qu'ils fassent l'option au lycée. Et...
Bon, après, je pense qu'il faut juste être ouvert d'esprit. C'est des matières en première année, on te pose les bases, et en deuxième et troisième année, on les applique. Il n'y a pas vraiment de connaissances requises, en fait, pour entrer dans cette filière. Il faut juste être ouvert d'esprit et avoir son bac comme il faut l'avoir.
Et est-ce que le changement entre le lycée et les études supérieures a représenté... un changement entre ces deux études, en fait, dans votre mode de vie notamment?
Alors en fait, oui, dans un certain sens, parce qu'en fait, quand vous êtes au lycée, vous suivez des cours, en fait, vous êtes dans la période adolescent, on va dire, donc vous êtes suivi par des professeurs qui vous donnent des cours magistraux ou autres, alors que dès que vous rentrez à l'université ou dans une faculté, là, on vous considère déjà comme des jeunes adultes, c'est-à-dire que on vous donne beaucoup plus de responsabilités, on vous fait plus confiance, donc il faudra apprendre, voire savoir s'organiser, à mieux gérer son temps libre et son temps de travail, mieux organiser son planning. En général, il y a aussi... En général, il y a le planning, il y a...
Oui, c'est ça, il faut juste savoir s'organiser, parce qu'en fait, l'emploi du temps change. C'est-à-dire qu'en première année, t'as cours essentiellement le matin, et l'après-midi, t'es un peu livré à toi-même. Donc il faut que tu te dises, allez, je me mets au boulot, même si t'as pas ton prof tous les matins qui va te dire, allez, demain t'as DS, il faut que tu te mettes à bosser. Non, c'est toi qu'il faut de la motivation, de l'organisation, et bah, après, on se met vite dans le bain, en fait. Tout le monde est pareil, tout le monde est dans la même...
Oui, c'est ça, en fait, dès que vous arrivez à l'université, en fait, il y a vraiment deux qualités qui sont requises. C'est vraiment l'exigence pour pouvoir suivre les cours, vraiment les travailler régulièrement, et ensuite l'autonomie pour pouvoir justement gérer, comme on l'a dit tout à l'heure, son planning, pour pouvoir gérer son temps de travail, ses travaux de groupe en général au sein de la faculté, oui.
Donc Evalo, tu parlais des professeurs qui disent pas toujours quand est-ce qu'il y aura un DS, etc. Oui, c'est vrai que ça, c'est un changement par rapport au lycée. Est-ce qu'ils sont toujours aussi derrière vous? Est-ce que vous pouvez compter sur eux quand vous avez besoin d'aide, etc.?
Bah oui, bien sûr. En fait, une des qualités de l'université catholique, c'est qu'on est dans le privé. Donc c'est des promos qui sont réduites quand même par rapport au public. Et en fait, on a donc tous les emails des professeurs qu'on peut contacter le week-end, la semaine, ils sont assez disponibles. Et par exemple, cet été, au mois de juillet, je ne savais pas trop où j'en étais, et j'avais le responsable pédagogique de la licence au téléphone qui m'a bien aidé, aiguillé, et qui était là, même s'il était en vacances, on peut toujours compter sur eux quand même.
Sans être indiscret, juste pour savoir, où est-ce que vous logez? Dans un appartement, dans une chambre étudiante?
Nous, on vit chez nos parents.
Oui. Ah d'accord.
On vit encore chez nos parents, parce que... Personnellement, moi, j'ai directement déménagé après de mon lycée. J'étais à Douai, à Saint-Jean avant. J'ai directement déménagé avec ma mère et ma sœur sur l'île. Donc, du coup, il n'y avait pas besoin de chercher un appartement. Cependant, après, pour les étudiants qui viennent de loin, comme Paris, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui viennent de Paris, on en a quelques-uns qui viennent de Bordeaux, on en a même quelques-uns qui viennent de l'île Maurice, carrément. Donc en fait, pour ces gens-là, il y a l'université catholique propose une association qui s'appelle l'AEU. C'est l'association d'aide universitaire. Donc c'est une association qui propose à peu près 22 résidences pour de logement, qui propose aussi des aides boursiers ou en relation avec le CROUS ou la CAF. Et au pire de cas, si vous passez pas par cette association, vous passez de particulier ou par des agences. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment s'y prendre en temps et en heure, parce que généralement, chaque année, en fait, tous les étudiants qui ont terminé soit leur master, qui ont terminé leurs études, libèrent leur appartement. Et donc, ça se libère à peu près en général vers les mois de avril, mai, juin. Donc, il faut vraiment être prévoyant et pouvoir après trouver le bon appartement.
Oui, après, on est dans le quartier Vauban, et en fait, c'est un quartier où il y a beaucoup d'écoles. Et donc, c'est un quartier super étudiant. Donc, en fait, il y a que ça, des appartements. Donc, c'est pas du tout compliqué.
Est-ce que vous pensez qu'il faut être près de son école pour ne pas être handicapé?
Ben, moi, personnellement, j'habite à 15 minutes en voiture de l'école, et ça me dérange pas. Il y a beaucoup de personnes qui mettent une demi-heure de métro, et après, c'est juste qu'il faut se lever un peu plus tôt le matin, mais c'est pas handicapant.
Personnellement, en fait, je trouve que quand vous habitez sur l'île, tout ça, après, c'est pas, franchement, c'est pas dérangeant, le trajet, tout ça. Après, comme l'a dit notre camarade de Lysen tout à l'heure, si vous êtes, en fait, moi, je pense qu'à partir du moment où vous êtes à plus d'une heure de route, une heure et demie de route, là, ça peut commencer à être contraignant, parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une perte de temps, surtout pour tout ce qui est travail, pour tout ce qui est organisation. Et c'est vrai que c'est mieux d'être près de l'école, en fait. Mais après, c'est pas dérangeant. Moi, j'ai des amis qui, par exemple, habitent aux alentours de Lille, donc Douai, Oisier, tout ça. Et ils mettent à peu près une demi-heure, voire 20 minutes de train, le matin aller-retour, matin-soir. Et c'est pas vraiment dérangeant, on va dire.
Est-ce que ça a été compliqué de trouver votre logement? Bah non, puisque vous habitez encore chez vos parents. Donc... Mais est-ce que vous envisagez d'habiter dans un appartement bientôt pour
alors,
vous aider?
Oui, parce que moi personnellement, après, j'ai envie de... Là, comme on est tous les deux en troisième année, on va passer directement après, on va valider notre licence, on va passer à des masters. Donc après, moi personnellement, je vise un master qui se trouve à Paris. Donc par la suite, effectivement, l'année prochaine, je vais être amené à trouver un appartement sur Paris pour pouvoir effectuer mon master à Paris.
Oui, moi c'est pareil, je pense partir de Lille l'année prochaine pour faire mon master, donc il faudrait que je trouve un appartement aussi dans la ville où je me trouverai.
Vous avez jamais pensé avant à prendre un appartement juste pour le côté liberté, où il y avait vraiment trop d'inconvénients, c'était juste un genre de caprice, on va dire
Bah, moi personnellement non, vu que je me sens bien chez mes parents. Après oui, c'est un peu un caprice, parce que prendre un appartement alors qu'on habite à 20 minutes de l'école, c'est un caprice. Et c'est demander à ses parents de payer un appartement en plus, c'est toujours des frais en plus, donc je pense que c'est pas super nécessaire, en fait.
Après, je peux comprendre la majorité des lycéens qui se disent « Oui, après, on va débarquer à Lille ou n'importe dans quelle ville pour faire ses études. Et ensuite, on souhaite avoir un appartement pour commencer à être autonome, avoir de la liberté, tout ça. » En fait, la première année, justement, c'est là où il y a beaucoup d'erreurs de la part des lycéens. C'est qu'en fait, ils arrivent la première année dans leur nouvel appartement. Donc, ils se sentent complètement libres. Ils se disent « Bon, allez, il y a les études. Et ensuite, on va pouvoir sortir. Je vais pouvoir rentrer à l'heure que je veux. J'aurai pas les parents derrière pour me surveiller ou autre. » Mais il faut savoir justement faire la part des choses entre les études et ensuite la liberté et l'autonomie dans un appartement. Parce que généralement, il y a beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas gérer en quelque sorte cette autonomie. Et donc du coup, ils ont complètement foiré leur première année parce qu'ils ont pensé plus à sortir, à faire ce qu'ils voulaient, plutôt que de consacrer une bonne partie de son temps au niveau du travail, des études ou autre.
En fait, vous pensez presque que c'est mieux de pas être seul pour vraiment être plus motivé, ou vraiment faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui l'est moins?
En fait, il faut faire la part des choses. Quand on vit encore chez ses parents, l'avantage qu'on a, c'est que voilà, on connaît l'endroit, on a notre chambre, on mange bien, on a encore papa et maman pour pouvoir nous aider sur certaines choses. Après, en appartement, c'est plus compliqué. C'est en même temps, justement, ça nous apprend à être comme je l'ai déjà dit, ça nous apprend à être autonome. Donc du coup, on se sent on a des responsabilités, on doit faire attention au loyer, on doit faire attention à son appartement en général. Et donc, non, en fait, il faut savoir faire la part des choses, je pense.
Oui, je suis d'accord.
Quelles aides vous pouvez obtenir de la part de l'État ou bien de votre école pour vous aider financièrement?
Bah, comme l'a dit Guillaume, il y a l'AEU qui aide à trouver un appartement, qui fait aussi des aides. Après, il y a la CAF qui aide les étudiants à payer leur loyer. C'est une petite aide en plus chaque mois, comme l'APL par exemple. Et sinon, il y a le CROUS qui aide à payer les études à l'aide de bourse ou à payer les appartements.
Et ces aides-là, tous les étudiants y ont le droit? Ou par exemple, il y a certaines bourses qui sont données que... il faut, comment dire, avoir des résultats satisfaisants, ou il n'y a pas d'histoire comme ça?
Alors, pour le CROUS, en fait, parce que moi, personnellement, je touche le CROUS, en fait, ça dépend du revenu. Après, ça, c'est un peu plus personnel, mais après, ça dépend du revenu des parents selon les impôts. Il y a aussi, effectivement, comme tu l'as dit, il y avait aussi des étudiants qui touchent des bourses parce qu'ils ont eu des résultats très satisfaisants au niveau du bac. C'est en gros une somme, une aide financière pour féliciter l'élève d'avoir de bons résultats. Après, tout dépend des revenus d'impôt ou enfin des revenus des parents en général.
Oui, après à la Cato, ça marche par pilier. Chaque élève ne paye pas la même somme. C'est en fonction des impôts qu'ont payé les parents l'année précédente. Et donc ça marche par pilier. Donc tout le monde ne paye pas la même somme. Enfin, c'est pour aider tout le monde.
C'est pour que tout le monde ait une chance venir à la Cato, en fait, simplement.
Ok, donc je vous propose de marquer une très courte pause. Restez avec nous pour la fin de l'interview au sujet de la vie étudiante de jeunes en fac d'économie à Lille. A tout de suite sur PFM 99.9. Tout de suite, c'est Contact de Kyo. A tout de suite.
Au final, pourquoi ne pas filer droit, ne pas finir sec, ne pas t'éviter pas. Je veux marcher sans regret, brûler des pages entières, même semer le secret, apprivoiser mes peines, lutter de nos silences, trop perdre de ma foi, aussi loin qu'il le faut. J'irai trouver au bout le contact, aussi loin qu'il le faut. J'irai trouver au bout le contact, aussi loin qu'il le faut. Hello. Dans l'espace de nos corps, dans le vide de nos pas. La tête bien dans l'eau, j'ai décidé qu'aussi loin que supporte mon corps, ou plus loin s'il le faut, j'irai reculer mon âme, soudoyer le passé. C'est loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Aussi loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Aussi loin qu'il le faut, et l'eau.
Sur PFM 99.9, nous accueillons deux étudiants à l'école à la fac d'économie à Lille. Rebonjour Guillaume et Evalou.
Rebonjour.
Vous êtes avec l'actualité, tout de suite l'interview sur leur vie étudiante. Avec nous Thomas.
Bonjour.
Rebonjour et Sarah.
Salut.
Je vous propose qu'on revienne à l'interview.
Alors ok, pour Thomas, recommencer... pour faire vos études, est-ce que vous faites des petits boulots à côté pour remplir les fins de mois?
Personnellement, non. J'ai pas trop besoin de faire de petits boulots. Après, c'est vrai que notre plan du temps, il le permet quand même. C'est un choix, je sais pas. Je me consacre plus à mes études que...
Alors personnellement, j'étais amené à faire des petits boulots, justement. En fait, l'avantage de notre fac, c'est que chaque fin d'année, c'est compris dans la moyenne, on doit faire un stage d'un mois minimum. Donc ça peut être un stage ou alors ça peut être converti en CDD ou un petit boulot. Et en fait, généralement, les entreprises, si elles sont satisfaites de vous... Moi, par exemple, j'ai travaillé au magasin Jules à Lille. Et ils m'ont rappelé après pour quelques journées, justement, pour travailler directement au magasin. Et puis du coup, ça m'a permis de financer quelques activités extrascolaires ou même pour l'université catholique sur des activités organisées par des associations ou autres. Donc indirectement, moi personnellement, après, au niveau pour payer les études, j'en ai pas vraiment besoin. Mais pour tout ce qui est activités extrascolaire qui est en relation avec la faculté, donc tout ce qui est, par exemple, avec le BDE, ils font souvent des activités, ou le BDS, bureau des sports, bureau des étudiants, donc ça permet indirectement de participer aux activités de la CATO, ouais. Enfin de la faculté.
Donc maintenant, on va parler du travail en lui-même. Est-ce que vous pouvez travailler en groupe?
Tout à fait. En fait, la faculté, ce qui se passe, c'est que la première année, on va surtout vous apprendre tout ce qui est les bases de l'économie, donc c'est plutôt des cours magistraux, des bases théoriques. Après, dès la deuxième et la troisième année, on commence à faire des activités en groupe ou des travaux de groupe. On a par exemple une matière qui s'appelle jeu d'entreprise et création d'entreprise. Donc en fait, vous êtes un groupe de 5 personnes et vous devez vous mettre directement à la place d'une entreprise. Vous vendez par exemple, moi je prends l'exemple de l'année dernière, on vendait des halogènes. Donc en fait, on était par groupe de TD, on était à peu près 4 ou 5 entreprises qui vendaient les mêmes produits sur 3 types de marchés. Et en fait, on devait justement faire un jeu d'entreprise, essayer d'être le plus productif, de gagner le maximum d'argent, enfin ainsi de suite. C'est pareil aussi en marketing, on doit par exemple faire une analyse de produits, donc on doit étudier les marchés, faire des sondages ou autre. Donc dès la deuxième, troisième année surtout, on fait beaucoup de travaux de groupe, effectivement.
Alors, comment se répartit vos cours dans la semaine? Donc, tu disais tout à l'heure que vous aviez cours le matin et pas l'après-midi.
Alors, les cours obligatoires, je dirais, sont le matin. Après, on doit choisir deux options sur un panel d'options qui nous est proposé. Donc, ça peut être sur l'art, sur l'histoire, ça peut être un approfondissement en droit. Et donc là, on doit choisir deux cours de 2 heures qui se déroulent l'après-midi, en sachant que le jeudi après-midi est réservé, on n'a jamais cours, c'est réservé aux associations et ils nous ont laissé ce créneau pour qu'on puisse, par exemple, faire du sport ou se retrouver pour créer des événements pour nos associations. Donc après, oui, on a cours tous les matins, ça c'est sûr, avec une matinée où on a les DS, En première, en deuxième année, on a DS toutes les semaines. Donc voilà.
Et voilà, c'est ça. En fait, on a un contrôle continu. Au niveau des examens, on a un contrôle continu qui compte généralement 30% de la moyenne générale. Donc c'est pratiquement un DS toutes les semaines. Et ensuite, on a les examens à chaque fin de semestre. Donc ça ne marche plus comme au lycée par trimestre, ça marche en semestre. Donc ça part de septembre à décembre et ensuite de janvier jusqu'à avril. Et en fait, on a 30% de contrôle continu et 70% après pour les examens. Donc après, au niveau des heures, on a à peu près une moyenne d'heures de 25 heures par semaine. Donc ça, c'est pour les cours obligatoires. Et ensuite, on a les options. Donc effectivement, ça rejoint une des qualités qu'on recherche pour venir dans cette faculté. C'est vraiment d'être ouvert d'esprit, être la curiosité. Parce qu'après, on peut faire des matières, des options comme théâtre, improvisation. On peut ensuite faire des options qui sont plus appliquées à l'économie, comme géographie de la mondialisation, où ça parle vraiment du contexte de la mondialisation dans son ensemble. Ainsi de suite, on propose pas mal d'options... Sur ce domaine-là, on peut faire aussi journalisme, il y a aussi une option de musique, enfin, on est ouvert à tout.
Comment vous, personnellement, vous exploitez ces créneaux d'horaire libres?
Alors, on les exploite surtout parce qu'en fait, on se dit, pour les cours magistraux, c'est vraiment une heure de cours, ça équivaut pratiquement à une heure de travail personnel. Donc, l'avantage d'avoir beaucoup d'heures libres, dès la première année, vous êtes amené vraiment à essayer de trouver une méthode de travail, à trouver une organisation de travail. Et donc le fait qu'on ait pas mal de temps libre permet de trouver une organisation qui reste efficace pour la suite des études. En fait. surtout ça en priorité. Après, justement, on se sert évidemment de cette partie d'heure pour se revoir, pour aller boire un verre ou pour rejoindre ses amis. Pourquoi pas parler des associations aussi, en général. Oui.
Après, en première et deuxième année, comme je l'avais dit avant, la CATO, elle propose, enfin plutôt la FGES, propose de préparer les concours pour entrer en école de commerce. Donc c'est sur les deux premières années. Et donc là, tous les cours se font l'après-midi. Donc les deux options qu'on choisit, on ne les choisit plus. Là, c'est des cours obligatoires de préparation. Donc, on va avoir préparation à la synthèse de texte, on va avoir des cours supplémentaires en anglais, des cours pour se préparer aux entretiens. Donc, ça va être toute la semaine, les après-midi, plus le samedi matin, pendant 2 ans, où on va préparer, les concours pour entrer en école de commerce. Donc là, on a beaucoup moins de temps libre.
Vous comptez combien d'heures de travaux personnels ?
Par jour, par exemple.
Par jour ? En fait, tout dépend de la charge de travail qu'on a. Si c'est, par exemple, des travaux de groupe, on fait directement tout. En fait, les heures de libre qu'on a, par exemple, l'après-midi, on s'en occupe pour faire les travaux de groupe. Enfin, on les prend pour faire des travaux de groupe. Après, en général, en fait, à la CATO, ce qu'on fait, en fait, à la fac, c'est que maintenant, on met en application les cours inversés. Alors, les cours inversés, en fait, c'est que les profs vous donnent directement les quelques notions de cours ou quelques exercices à faire sur la matière, sur une matière définie. Et ensuite, c'est à l'élève de préparer entièrement le cours. Donc, il va faire des recherches sur Internet, il va faire des recherches à la bibliothèque de l'université. Et ensuite, l'étudiant arrive en cours. Et là, on fait des exercices. Et puis ensuite, le prof est là pour résoudre certains points de cours qu'on n'a pas compris ou alors pour justement compléter le cours qu'on a travaillé directement à la maison. Donc oui, donc en fait, en général, moi personnellement, après, je bosse à peu près 2 heures par jour. Déjà, c'est une heure et demie minimum par jour, parce qu'il faut toujours avoir de la rigueur et avoir un travail continu assez efficace. Et puis voilà, c'est...
Oui, après, ça dépend. Si on est pendant notre semaine de révision pour préparer les partiels en fin de semestre, là, on va être au travail de toute la journée, quoi.
Généralement, on quitte pas la faculté parce que la faculté dispose de plusieurs salles de travail. Et puis, quand on arrive aux examens ou même la veille d'ADS, généralement tous les étudiants se regroupent au niveau de la BU, enfin de la bibliothèque universitaire, ou alors au niveau de salles de travail pour vraiment travailler à fond les examens.
Comment vous arrivez à concilier est-ce que vous faites la fête parfois la semaine, par exemple ?
Ça nous arrive, oui.
Oui.
Et comment vous conciliez fête, les loisirs, les activités extrascolaires et puis le travail ?
En fait, on revient toujours à cette notion de rigueur. C'est-à-dire que si on arrive à s'organiser, à prendre de l'avance sur son travail, à vraiment être... on se dit, bon voilà, par exemple, on se fixe plusieurs objectifs. À telle journée, je me dis, voilà, j'ai appris telle notion de cours, j'ai travaillé autant. Donc après, en fonction de son travail, on peut s'accorder des moments de loisirs, notamment les fêtes le jeudi soir pour les soirées étudiantes, ou alors... Même après, il y a des étudiants qui sortent le mercredi. Bon, après, il y a les gros cas qui sortent mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais en général, après... En fait, l'avantage d'avoir ce contrôle continu de 30%, c'est que justement, on peut éventuellement, si on loupe le contrôle continu, on peut se rattraper aux examens. Enfin, généralement, c'est... Et puis le fait qu'on ait beaucoup de temps libre permet justement d'avoir pas mal de sortir assez régulièrement.
Et si jamais vous ne réussissez pas ou que vous avez envie de voir autre chose, quels sont les moyens de se réorienter ? Est-ce que vous avez des passerelles ?
Comme je l'ai dit, dans nos cours, on touche un peu à tout, c'est-à-dire qu'on fait de la communication, du marketing, de la RH, de l'économie, des maths, des stats, donc de l'anglais. Donc en fait, on peut aller partout. Il n'y a rien qui empêche d'aller, de se réorienter dans une école de communication ou aller en droit.
Oui, c'est ça. En fait, c'est encore la première, deuxième année, c'est vraiment pas gênant parce que ça se trouve, l'étudiant se dit que voilà, je me suis trompé de filière, ça m'intéresse finalement pas, les cours ne m'intéressent pas dans la licence, je vais pouvoir changer. Donc la première, deuxième année, c'est vraiment pas gênant. On peut bifurquer, par exemple, on peut directement changer de licence toujours au sein de la faculté. Donc au lieu de faire une licence de gestion tournée vers l'entreprise, on peut faire une licence de l'international éco. Donc après, on vous fait passer des petits tests d'anglais parce que voilà, l'international économique, c'est vraiment destiné vers les pays. Vers l'international. Après, en Ecofis, c'est pareil. On vous fait passer des petits tests pour pouvoir être plus... Enfin, de mathématiques, statistiques ou autres. Après, ça devient plus gênant à partir de la troisième année où là, Par contre, si vous vous rendez compte en plein milieu de la troisième année que vous êtes trompé, vous êtes sur le point de finir votre licence, ça va être très difficile de bifurquer sur par exemple une école, une faculté de communication, ou même de bifurquer sur complètement autre chose, comme par exemple du droit ou autre, parce que voilà, on a déjà pris beaucoup trop d'avance sur ce qu'on fait actuellement au niveau de la licence pour essayer de bifurquer directement en troisième année. En fait, je connais 2-3 élèves qui se sont trompés de voie en troisième année, donc du coup, ils ont dû reprendre directement dès la première, voire dès la deuxième année de droit, parce qu'ils voulaient faire du droit, ou alors dès la première ou deuxième année d'école d'ingénieur, alors qu'ils étaient en troisième année de licence, en fait. Donc c'est encore en première année, deuxième année, c'est pas gênant. On peut directement bifurquer sur d'autres écoles par la suite ou d'autres facultés.
Est-ce que changer à la première année, ça ralentit pas un peu les études ?
Franchement, je dois vous avouer qu'une entreprise ne va pas regarder le temps que vous avez mis le temps d'études que vous avez mis ou alors l'âge à laquelle vous avez. Une entreprise va surtout, un recruteur va surtout regarder vos compétences, ce que vous avez fait, quel stage vous avez fait pendant votre cursus scolaire. Et donc, à la limite, le fait de redoubler ou de perdre une année pour changer de faculté ou d'école, c'est vraiment pas important, en tout cas pour... Après, je vous avoue que si vous avez 30 ans et que vous êtes toujours en deuxième, troisième année, voilà, forcément, ça va pas... Ça va être un peu difficile, mais généralement, les recruteurs ne regardent pas ça. Ils regardent vraiment les compétences. Donc, quitte à faire un maximum d'années d'études, c'est le principal. Et si, par exemple, en deuxième année, vous vous rendez compte que vous êtes trompé, c'est pas grave, vous bifurquez sur ce que vous voulez faire. Et puis ensuite, quand vous allez travailler dans le métier ou dans le secteur d'activité que vous souhaitez, les recruteurs ne vont pas faire attention à ça, en général.
Pour réussir dans votre filière d'études, donc l'économie, il faut beaucoup travailler, être ouvert d'esprit. Et est-ce qu'il faut faire une prépa juste avant d'intégrer la fac ?
Non.
Est-ce qu'il y a des
pas
prépas déjà ?
Pardon ?
Il y a des prépas économie ?
Des prépas économie, oui, tout à fait. En fait, c'est juste que nous, pour entrer dans la faculté, c'est sur post-bac, en fait. Donc, les terminales doivent le savoir. On émet des choix sur le site post-bac pour pouvoir entrer dans la faculté. Après, il y a une évaluation du dossier de l'étudiant, et ensuite, il est amené par un entretien pour ensuite entrer dans la faculté. Après, non, pour entrer dans une licence, dans une faculté en général, il n'y a pas de concours ou d'examen pour y entrer. Par contre, pour les prépas, ça, c'est différent. Pour les prépas, il y a des vrais prépas, je ne sais pas comment on dit exactement, des purs prépas de 2 ans où on est vraiment dans un établissement pour faire la prépa, pour ensuite directement entrer dans l'école de commerce pour préparer les concours ou autre. L'avantage qu'on a dans notre licence, c'est qu'on propose de faire la licence et en même temps de faire le double cursus prépa. Donc, ce n'est pas une vraie prépa. Enfin, si, c'est une prépa, mais on a la charge de travail est beaucoup moins importante, ce qui permet justement de partir en école de commerce tout en ayant validé une licence derrière au cas où si finalement on n'a pas l'école que l'on souhaite ou finalement on décide par la suite de ne pas partir en école de commerce en fait. C'est ça l'avantage de notre double cursus.
Après, oui c'est ça, en fait on n'a pas ce côté rébarbatif de la classe préparatoire où pendant 2 ans on fait que assimiler des connaissances. Là on a la possibilité d'avoir quand même de garder un œil sur le monde extérieur en suivant les cours de licence. Et ce n'est pas un problème pour rentrer en école de commerce parce que les places réservées en école de commerce ne sont pas les mêmes pour les personnes qui venant d'une classe préparatoire et venant d'une licence. Donc en fait, il n'y a pas du tout de... On ne concourt pas, entre guillemets, avec ces personnes qui sont en classe préparatoire.
Puis généralement, ceux qui font la licence plus le double cursus se préparent. Là, si je me souviens bien, les chiffres de l'année dernière, c'était 90% d'élèves qui étaient en prépa ont été admis dans le top 5, top 10 des écoles de commerce actuellement en France. Donc je fais référence à l'EM Lyon, l'EDEC, Schema, enfin toutes ces écoles-là, il y a eu 90% de réussite en tout cas. Puis éventuellement, si vous n'avez pas eu l'école au bout de la deuxième année de prépa, vous pouvez éventuellement passer en classe sup. Donc c'est une troisième année de prépa, c'est bien ça. Une troisième année de prépa qui vous permet justement de repasser les concours et ensuite de pouvoir intégrer directement l'école que vous souhaitez.
On dit souvent qu'après le bac, il y a moins de vacances. Est-ce que c'est vrai pour vous ?
Alors, c'est vrai dans un certain sens. En fait, on a une semaine de... En fait, par exemple, pour les vacances de la Toussaint, pour les vacances de Pâques, on n'a pas 2 semaines comme au lycée, on n'a qu'une semaine. Et après, sauf pour les vacances de décembre, on a 2 semaines. Mais après, l'avantage qu'on a, c'est qu'en fac, on finit l'année en avril. Fin avril. On finit pas l'année en juin, juillet, comme au lycée, en fait. Donc, plus les heures de temps libre qu'on a, c'est... On va dire que le fait d'avoir moins de vacances avec tout le temps libre que l'on a par derrière, plus le fait qu'on termine l'année en avril, c'est vraiment pas dérangeant.
Tout le monde finit l'année en avril ou il y a des rattrapages, d'autres choses proposées?
Oui, il y a si on n'a pas validé notre année, il y a des rattrapages en juin, il me semble, fin juin.
C'est la première semaine, deuxième semaine de juin.
Voilà. c'est lorsqu'on a passé les partiels, on a nos résultats et une ou deux semaines après, on est au rattrapage. Mais ça ne nous empêche pas d'être en vacances non plus. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, on doit aussi faire un mois de stage minimum. Donc c'est vrai qu'on a fini l'école, mais on y est encore un peu vu que... On doit être en entreprise pendant un mois, voire plus.
Tu as parlé de stage, mais est-ce que l'école vous aide à avoir ces stages?
Tout à fait, oui. En fait, l'un des avantages justement de la FGES, c'est qu'ils ont gardé l'ensemble des contacts des anciens élèves qui sont partis maintenant en entreprise, ou alors qui sont patrons, ou alors qui sont même salariés ou autres. Ils ont un énorme panel dans différents secteurs d'activité, que ce soit par exemple en hôtellerie, en banque, en assurance, même en travail en magasin ou dans la vente de détail en général. Et donc la CATO, en fait, il y a un site qui s'appelle FGES Carrière qui regroupe justement ces contacts et les différents secteurs d'activité. Donc après, on peut directement aller sur ce site-là pour pouvoir chercher des stages ou autre. Après, rien ne nous oblige justement d'aller faire du porte-à-porte et essayer de trouver des stages. En général, en fait, il y a différents types de stages. La première année, on vous demande un stage d'exécution, donc c'est vraiment pour travailler avec l'entreprise. Ensuite, en deuxième année, c'est plus un stage de relation clientèle. Donc là, on doit essayer de trouver un stage qui soit vraiment en relation avec le client, avec l'interaction du client. Et en troisième année, c'est plus un stage qui est global.
Qui se porte surtout sur... Sur le domaine qui nous intéresse, spécialisé dans le master qu'on aimerait faire l'année suivante.
Est-ce que vous avez des préjugés sur votre école?
Alors, des préjugés, c'est-à-dire c'est des étudiants de l'extérieur ou des lycéens qui ont des préjugés sur la CATO ou...
Oui, voilà.
Ouais.
D'accord.
Oui, un peu, dans le sens où l'université catholique est une université privée. On a souvent tendance à dire que quand on va dans le privé, on paye notre diplôme, alors qu'en fait, pas du tout, dans le sens où on a des professeurs très compétents qui ont soit déjà travaillé en entreprise ou qui ont de très bonnes connaissances en entreprise. Oui, il y a des préjugés, mais ils ne sont pas vrais.
Oui, voilà, comme l'a dit Eva, c'est vraiment des préjugés, mais on est tous dans la même galère, que ce soit dans le privé ou dans le public. On a la même masse de travail, on étudie les mêmes choses, donc on est tous dans la galère. Donc on peut, en fait, c'est juste qu'en fait, la différence entre le privé et le public, c'est juste que dans le privé, enfin, d'après les échos que j'ai eus de camarades ou autres, dans le public, par exemple, où vous avez des promotions qui sont vraiment beaucoup plus importante, vous avez un moins bon suivi des professeurs parce que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'élèves, alors qu'au privé, on a vraiment des chercheurs, des docteurs en économie qui sont, comme on l'avait dit en début d'interview, qui sont vraiment là pour vous accompagner. Et non, franchement, tous les préjugés en général sont... On galère, en fait, on est tous dans le même niveau, donc on paye pas la CATO pour payer notre diplôme, en tout cas. On est tous dans le même bateau.
Si c'était à refaire, vous referiez le même cursus universitaire?
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait, parce que je dois vous avouer qu'en fait, quand j'ai passé mon bac ES, moi, personnellement, je ne savais vraiment pas ce que je souhaitais faire. Alors après, je savais ce que je ne souhaitais pas faire, c'était déjà l'essentiel. Mais je me suis dit, voilà, je vais entrer dans la licence gestion à la FGES, parce que voilà, c'est une licence qui est assez générale. Donc d'ici les années, au fur et à mesure, je vais toucher un peu à tout, en marketing, GRH... économie approfondie ou même de la comptabilité, et je vais pouvoir m'orienter. Et là, maintenant, depuis cette année, depuis l'année dernière et cette année, je commence un peu à construire mon projet professionnel et un peu à savoir où est-ce que je vais, en fait, tout simplement. Je ne sais pas pour toi.
Non, je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Super. J'ai une question au chroniqueur. Donc, vous souhaiteriez faire une fac d'économie vous...
Alors moi, c'est pas du tout le domaine qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt intéressée par tout ce qui est côté scientifique. Après, ça m'intéresse beaucoup d'entendre les différents points de vue, etc. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours un peu envie, on vous entend parler, vous avez l'air d'aimer ce que vous faites. Donc, c'est toujours agréable d'entendre des personnes passionnées, quoi.
Surtout que si tu fais des études après sur, sur des choses que tu n'aimes pas, forcément, tu vas pas du tout bosser, tu vas plus avoir tendance à sécher les cours ou autre. Et donc, forcément, après, c'est pas... En fait, il faut vraiment, dès le post-bac, il faut vraiment, vraiment penser à ce qu'on souhaite faire d'ici 3 à 4 ans. Après, voilà, là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, rien ne vous empêche de faire une licence ou même une faculté ou université et ensuite de bifurquer. Mais bon, c'est bien de faire ce qu'on aime, en tout cas.
Tiens, du coup, j'ai une petite question. Tu parlais de sécher. Est-ce que c'est le même principe qu'au lycée? Est-ce que vous avez des heures de colle, des punitions ou est-ce que c'est vraiment, je vous ai juste pénalisé personnellement?
Alors, les cours en amphi ne sont pas... Il y a certains professeurs qui font l'appel, mais dans l'ensemble, non. Donc, les cours magistraux ne sont pas émargés. Par contre, on a des heures de TD où là, on applique les cours magistraux en exercice, où on va plus nous expliquer, où on est en classe de 25-30. Et là, oui, on a des absences. Et le topo, c'est on n'a pas le droit de dépasser 3 absences sinon dans la matière, sinon on va au rattrapage. On ne peut pas passer la matière au partiel, mais on va au rattrapage. Donc, c'est quand même assez suivi.
C'est ça. Et puis ensuite, c'est 3 absences par matière. Et ensuite, si vous dépassez 12 absences, par exemple, sur l'ensemble des matières, là, vous ne passez pas du tout les examens du fin de semestre. Vous passez directement au rattrapage en juin. Donc, c'est un peu gênant quand on sait qu'on finit en avril, l'année en avril, de passer ensuite, de retravailler en juin. Surtout qu'en fait, les résultats de l'année, de la moyenne de l'année, sont divulgués enfin, mi-mai, fin mai. Donc du coup, vu que les rattrapages sont la première semaine et la deuxième semaine de juin, on va dire que c'est gênant. On va dire faut faire vraiment attention à ça. Donc en fait, on n'a pas vraiment, après, on n'a plus comme au lycée d'école ou autre, mais on est puni directement par ces absences.
Et si vous êtes malade, si vous avez une justification, ça marche pareil?
Là par contre, ça marche, oui, tout à fait. En fait, si vous arrivez à justifier, parce que vous êtes malade, mais il faut vraiment un certificat médical du médecin. Il faut, si par exemple s'il s'agit d'un problème personnel comme un enterrement ou autre, il faut vraiment, c'est un peu facile à dire, mais il faut quand même un justificatif pour pouvoir, parce que c'est pareil, si vous loupez un DS, c'est trois absences d'office en fait. Donc voilà, il faut vraiment essayer toujours à amener à justifier. Après, si vous êtes vraiment pas bien, c'est juste parce que vous êtes à rhume ou alors vous n'arrivez pas à vous réveiller à cause d'un lendemain de soirée voilà, si vous avez une absence, c'est pas à la mort non plus. Du moins que vous savez que vous avez un certain quota. Voilà.
Vous avez parlé des partiels, juste une petite question, c'est quand les partiels?
Alors les partiels, c'est là par exemple pour décembre, c'est début décembre, c'est à partir du 11 ou 12,
oui, du 11,
je
c'est
crois.
Juste avant les vacances de Noël en fait.
C'est juste avant les vacances de Noël et puis pour avril, c'est fin avril, c'est la dernière semaine d'avril en général.
Et donc en fait c'est comme des gros DS?
C'est des gros DS en quelque sorte. En fait les DS c'est 30% et les examens c'est 10%, donc en fait c'est vraiment, les examens c'est vraiment des, en quelque sorte des DS mais beaucoup plus approfondis, beaucoup plus développé, on va dire.
Oui, ça reprend tout ce qu'on a vu durant le semestre.
Ok. Donc, Guillaume, vous m'avez dit que vous teniez une association.
Tout à fait.
On aimerait savoir en quoi ça consiste.
Alors, en fait, bah, après, il n'y a pas vraiment... Je tiens une association et en fait, tout le monde tient l'association parce qu'il n'y a pas vraiment de poste attitré comme, okay. Comme BDE où il y a un président ou autre. En fait, l'association s'appelle Promo FGES. C'est une association qui est... censé aller au salon des étudiants, donc aussi au forum dans les lycées, donc par exemple au lycée Baudimont, ou alors éventuellement à d'autres lycées qui se trouvent aux alentours dans Lille et les alentours de Lille, donc, mais surtout sur les salons étudiants. Et en fait, on tient des stands, on va à l'encontre des étudiants, des lycéens, pour pouvoir justement promouvoir notre faculté, leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, quelles sont les perspectives d'avenir, et ensuite comment ça marche en quelque sorte. Et en fait, on a plusieurs dates. On a des dates comme sur Lille, par exemple au Grand Palais à Lille. On a aussi Paris, on a aussi Rouen. Enfin, on va un peu partout en France pour promouvoir la fac. Et on a à peu près, c'est une association qui regroupe à peu près une vingtaine d'étudiants, donc de différentes licences. Justement, on est à chaque fois, chaque licence, on a un groupe de 6 personnes. Donc nous deux, on est dans le groupe gestion. Et il y a aussi le groupe Ecofi, enfin, etc. Et en général, on essaie vraiment de promouvoir la fac aussi par le biais de Facebook, par exemple. On vient de lancer une page Facebook il y a 2 semaines de cela, parce qu'on on s'est imaginé que c'est très énervant, voire même suant, pour être poli, on va dire, qu'un étudiant, un lycéen, aille sur le site officiel de la CATO, voit les comptes. Enfin, on voudrait apporter un point de vue plus personnel en fait, de la faculté, en présentant par le biais de vidéos les associations, comment ça marche au niveau des cours, des interviews de professeurs qui vont vous expliquer comment ça se passe en première année, deuxième année, parce que c'est plus important pour les lycéens. Donc voilà, c'est surtout à ça que qu'on sert en quelque sorte.
Oui, c'est sûr que c'est... Enfin, pour moi, j'aurais préféré avoir le point de vue d'un étudiant, son ressenti sur la faculté, plutôt que d'avoir le côté très pédagogique, très théorique, le point de vue d'un professeur. En fait, c'est plus fun d'avoir le ressenti d'un étudiant, d'un élève de la fac. On vit le truc, donc je pense que c'est nous qui sommes plus à même à en parler.
Oui, c'est toujours plus intéressant. Et je crois savoir que même que vous faites des échanges, que vous amenez des lycéens à la Cato.
C'est ça. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des journées d'immersion. Donc éventuellement, justement, on propose ça aux lycéens. En fait, plusieurs lycées se regroupent et viennent à la Cato, enfin à la faculté pour une journée. Une journée complète où ils vont assister à des vrais cours en amphithéâtre, en TD, tout ça. Ils sont répartis un peu à droite à gauche au niveau de la faculté. Donc après, c'est au lycée, aux élèves de lycée, justement, de choisir dans quel type de licence ils souhaiteraient assister aux cours ou autre. Et ensuite, ils viennent directement à la faculté pour pouvoir, justement, vivre une vraie journée d'étudiants à l'université. Donc ensuite, après, les repas sont... Vous mangez directement à la Cato, soit vous allez dans les restos à côté, soit vous allez directement au restaurant universitaire. Voilà, cherchez le mot. Donc, vous assistez à des cours, et puis c'est vraiment très sympa. Parce que du coup, justement, l'ensemble des élèves vous accueillent. Il n'y a pas seulement l'association, il y a l'ensemble des élèves qui vous accueillent. Et puis ensuite, les associations comme le bureau des étudiants, le bureau des sports, ou même le bureau des arts qui vous accueillent, qui vous proposent des activités, qui vous montrent un peu ce qu'ils font en général. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'est juste, il faut venir parce que c'est une bonne expérience et on peut voir vraiment à quoi s'attendre en fait.
Vous avez déjà un avant-goût de ce que peut être déjà l'université et la faculté en général.
Ah oui, donc ça peut être vraiment très intéressant pour les lycéens. Sarah, tu t'en penses quoi, toi ?
Bah, moi, j'en pense que c'est une bonne idée. Je sais qu'il y a beaucoup de journées d'immersion comme ça qui sont organisées dès de la primaire au collège, même du collège au lycée. Moi, j'ai fait les deux. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant pour savoir à quoi s'attendre et pas trop être affolé non plus le premier jour, parce que c'est vrai que c'est un grand changement. Donc même pour moi qui me destine pas vraiment à ça, c'est vrai que c'est une expérience enrichissante.
Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant de vivre à l'avance ce qu'on va vivre dans 3-4 ans bientôt. C'est intéressant, ouais. Thomas, t'en penses quoi ?
C'est important que ce soit les élèves qui fassent des associations comme ça pour présenter leur fac, parce que avoir le point de vue d'un professeur, comme vous l'avez dit, c'est un peu old school, quoi. Vaut mieux avoir des étudiants qui présentent, parce que c'est eux qui sont au cœur du truc. Donc ouais, je pense que c'est intéressant.
Bah voilà, maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. C'était l'interview de Guillaume et de Evalou, étudiants en fac d'économie. Merci beaucoup d'être venu pour répondre à nos questions.
Bah surtout merci à vous, hein. C'est grâce à vous si on peut présenter la faculté, merci à vous.
Donc on va présenter à notre lycéen pour voir si vous voulez venir, si vous pouvez venir, ou si nous on peut venir à la Cato d'ailleurs. On va essayer de faire un truc, puis de poser des photos sur notre page Facebook.
Oui, pour bien voir, sûr.
D'accord, avec plaisir.
On va essayer de faire ça, d'organiser tout ça. Merci beaucoup à Sarah.
Mais de rien.
Et à Thomas.
De rien.
Cette interview qui peut être revue sur la page Facebook de l'Actualiteam, donc l'Actualiteam, ou bien sur le site internet de PFM. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. À très bientôt avec l'Actualiteam sur PFM 99.9.